France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en mode téléphone sonne ce soir sur France Inter. Vu la tournure prise par les événements ces derniers jours, nous avons en effet choisi de vous donner la parole dès maintenant. Il faut dire que la semaine écoulée restera dans les annales. Les gilets jaunes ont en effet réussi à faire reculer le gouvernement. Les gilets jaunes et surtout les violences qui ont accompagné les rassemblements. On a vu samedi dernier à Paris, mais aussi au Puy-en-Velay, des scènes d'une violence inouïe. On a senti les autorités aux abois et ce n'est pas fini. La journée de demain s'annonce comme celle de tous les dangers. Pour la première fois depuis bien longtemps, on sent le pays fragilisé. À 19h20, on s'interrogera d'ailleurs sur la façon de sortir de cette situation. On se demandera comment remettre tous ceux qui protestent dans le jeu démocratique. On s'interrogera au passage sur la façon dont ce mouvement est né sur les réseaux sociaux, sans que les circuits institutionnels traditionnels ne réagissent. Mais d'abord, dans cette première partie, un état des lieux géographique, car ce mouvement qui prend pour cible l'État, la capitale et ses représentants, est un mouvement venu des profondeurs du pays. C'est donc l'occasion de s'interroger sur nos fractures territoriales. Avec nous pour en parler ce soir, deux personnes qui connaissent très bien la carte de France et l'histoire de France. Le démographe et historien Hervé Lebras, qui a publié de multiples ouvrages sur le sujet, et notamment un très précieux atlas des inégalités aux éditions Autrement. Bonsoir Hervé Lebras.
Bonsoir.
Avec nous également la géographe Béatrice Gibelin. Bonsoir à vous, Madame Gibelin, directrice de la revue Hérodote, dont le dernier essai s'intitule « Le paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin », c'est chez Armand Collin. Pour les interroger, un numéro, le 01 45 24 7000.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Béatrice Gibelin et Hervé Lebras, merci donc d'être avec nous ce soir pour nous éclairer sur ce qui est en train de se passer. Alors, je voudrais peut-être pour commencer, avant de partir au standard du téléphone sonne, avoir votre commentaire sur la semaine qui vient de s'écouler, mais on va d'abord se remettre tout ça dans l'oreille grâce à ce mix tout sonore qui a été mis en onde par Clément Nouguier.
Je suis ouvrier, je suis intérimaire, je travaille dans le BTP et ma femme aussi intérimaire et on s'en sort pas.
Je suis monté à Paris en pacifiste et 5 minutes après, j'avais changé complètement d'avis. Je revendique avoir jeté des pavés sur les camions de CRS. Je pense à la violence. Je vais peut-être utiliser des mots forts, mais je pense vraiment qu'on part en guerre. Quoi.
Un président qui part en Argentine alors que le pays est presque en guerre, on va faire quoi là? Il faut absolument que le président se dépêche de réagir, ça s'aggrave. Là.
Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime.
Démission ! Démission !
Les commentaires ?
Je ne vois pas au niveau où nous sommes de la gravité de cette crise politique comment sortir par le haut, à part en retournant aux urnes.
Il faut rendre la parole aux Français. Il faut qu'il y ait un référendum.
Il faut une sortie institutionnelle. Eh bien, puisque c'est comme ça, on retourne aux urnes.
Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation.
Enfin, 3 semaines pour arriver à un moratoire.
Dans 6 mois, on va faire quoi? Il va falloir qu'on revienne encore dans la rue pour manifester? Bah, autant y rester puis obtenir ce qu'on veut dès le départ.
Mais il faudrait plus, beaucoup plus, il faudrait. Il faudrait la démission de Macron, c'est ce qu'on veut. Et la dissolution de l'Assemblée.
Quand il est venu au Puy-en-Velay, hein, il savait très bien comment qu'il allait être reçu. Hein.
On chante à longueur de journée Macron démission. Nous, on assume, on le dit devant lui. À l'inverse de lui, qui ne fait rien du tout, en fait, il prend pas la parole.
Aujourd'hui, la situation démocratique dans le pays est extrêmement inquiétante. La situation de tension est très très forte. Et donc, je pense qu'il faut recréer des espaces de discussion et de dialogue, mais de dialogue réel. Et donc, je les invite juste à passer de la colère à l'engagement.
Les choses sont très claires. On a dit ces 3 augmentations de taxes qui étaient prévues au 1er janvier 2019, elles sont annulées pour l'année 2019.
C'est ce sentiment d'injustice qui donne la rage. Et évidemment que c'est plus aujourd'hui, avec seulement un moratoire puis une annulation, qu'on se sort d'une crise qui s'est ancrée dans les tripes des gens.
On ne demande pas la mer à boire. On demande au moins qu'il augmente au moins de 200 à 300 euros par mois les petits salaires, les retraites. Oui, on n'a pas fait l'ENA, d'accord, mais on n'est pas con.
Voilà, pour ce petit résumé, peut-être une première réaction. Hervé Lebras, comment vous réagissez quand vous entendez tout ça?
Bah, c'est
ça n'avance pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas quelles sont les revendications, il n'y a pas d'unification, et on pourra en parler plus tard, il y a une raison à cela, c'est que le soulèvement est fait de, au fond, de publics extrêmement divers, et on pourra les détailler, mais ils auront beaucoup de mal à s'unifier. Je trouve que ce qui s'est passé cette semaine, c'est plutôt, au fond, ce qui a bougé, c'est pas tellement du côté des gilets jaunes, sauf tout à la fin, mais bien sûr du côté du gouvernement et de la présidence. C'est aussi une prise de conscience. J'étais très intéressé dans cette dernière journée par exemple l'article de Laurence Tubiana qui reconnaît une chose qu'on paraît évidente à des gens comme nous.
Représentante pour le climat, faut quand même le préciser.
Oui, mais c'est que toute cette question du carbone et du climat avait été pratiquement pensée sans la question sociale. Et même quand vous voyez le départ de Hulot, Nicolas Hulot nous raconte des choses sur, bien sûr, c'est son boulot, son job, les centrales atomiques, la taxe carbone, mais à aucun moment la société n'est concernée. C'est assez général, je dirais que il y a eu dans cette pensée des climatologues une impasse qui a été faite sur les sciences sociales, très largement. Et donc là, c'est bien de voir que d'un seul coup, il y a un réveil, on se dit, ben oui, il faut penser la société en même temps que la réduction du carbone. Et puis l'autre peut-être bonne nouvelle, c'est, et on l'a entendu il y a un instant, mais c'était déjà annoncé il y a quelques heures, c'est que l'un des plus durs, qui est Éric Drouet, renonce à son idée d'entrer à l'Élysée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il aurait fait à l'Élysée une fois qu'il serait entré? Il n'y a pas de programme, donc je ne vois pas très bien l'intérêt d'entrer à l'Élysée. Mais là, maintenant, alors ça va se passer sur le périphérique, c'est, il y a là un très gros adoucissement, je ne sais pas ce qui se produira demain.
Attendons,
mais c'est
quand même
un gros changement de discours de la part de ceux qui étaient parmi les plus durs dans le mouvement des Gilets jaunes.
Béatrice Gibelin.
Éric Drouet n'est que l'un d'eux, puisque comme ils ne veulent pas de représentants et comme ils ne veulent pas de leaders, même si Éric Drouet dit une chose, alors il est sur les Français en colère et ça présente 300 000 personnes, mais sur Internet, c'est pas 300 000 personnes dans la rue, il faut faire évidemment bien la différence. Je pense qu'il y a le sentiment chez un certain nombre d'entre eux parmi les Gilets jaunes qu'on y est presque, que si on donne encore un coup un peu plus fort, alors là, on aura le gros lot d'une certaine façon, parce qu'on est loin de la taxe sur l'essence de 6 centimes qui devait arriver en janvier. On est parti sur quelque chose qui est extrêmement large. Alors, comme l'a dit Hervé Lebras, on est sur un mouvement qui est extrêmement hétérogène. Extrêmement hétérogène. Ça va, si vous voulez, effectivement du type qui est au RSA ou au chômeur en fin de droit, au petit patron routier ou à l'artisan ou boulanger. Enfin, on a des choses extrêmement diverses et avec des gens qui ne sont pas forcément en situation de ne pas pouvoir travailler, qui sont aussi des actifs.
Beaucoup qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à joindre
oui,
les deux bouts.
J'allais dire un professeur des écoles, excusez-moi, son salaire, il est 2700 et il est parfois euros et il est lui aussi en région parisienne avec des loyers très élevés et lui aussi, il a du mal à boucler sa fin de mois. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas... je voudrais corriger cette idée que seuls manifestent et sont en gilet jaune des Français abandonnés de toutes parts et qui sont la tête sous l'eau et qui n'y arrivent plus. Je dis, il y a énormément de gens diplômés et tout, et qui gagnent des salaires. Un maître de conférence qui démarre à l'université, c'est 1700 euros après 10 ans d'études et une thèse. Donc, soyons un petit peu raisonnables dans cette représentation qu'on a abandonné tout le monde. Non, en France, on n'est pas abandonné. On peut avoir des situations difficiles, on est très sensible au discours et aux situations d'inégalité territoriale, c'est incontestable et il faut sans doute revoir cela, mais cessons le discours et de la fracture et de l'abandon.
Et peut-être une fracture territoriale quand même, et on va essayer d'en parler ensemble, Hervé Lebras. On va peut-être aller au standard du téléphone sonne pour prendre un premier appel. C'est Pascal qui est en ligne avec nous et qui ouvre cette émission. Bonsoir Pascal.
Bonsoir à vous.
Bienvenue.
Bonsoir à vos invités. Merci de me permettre de formuler mon ressenti. Et ça tombe bien parce que là, je vais pouvoir répondre directement parce que là, on vient de refuser l'abandon. Et nous, je suis en Orque d'Or, hein, dans le 21-400, et c'est bien le sentiment que nous, on ressent. Hein, même quand, pour ceux qui travaillent et qui ont un salaire, pas mirobolant, bien sûr, mais c'est une catastrophe quand il y a une panne de voiture, quand une machine à laver lâche, etc. Ça devient une catastrophe dans les familles. Voilà. Nous, on a l'impression d'être des citoyens de seconde zone, avec les mêmes lois, les mêmes impôts, mais abandonnés par l'État et tous ses services publics. La santé, la justice ne sont plus accessibles pour nous. À moins de 80 km. Moi, je parle de mon cas, hein, 60 à 80 km.
Dans ces conditions, vous ne voyez pas très bien pourquoi vous payez des impôts, quoi, c'est ça?
Ben, non, c'est pas ça. Moi, je suis très républicain. C'est pas ça le problème. Mais c'est que les services publics ne nous oublient pas, qu'ils restent un peu vers nous.
Que tout le monde puisse en profiter.
Voilà, qu'on ait le même accès, en tout cas, pas aussi difficile qu'il est actuellement, parce que c'est l'abandon. Au niveau de, on a un hôpital qui est une coquille vide, on n'a plus rien. Et, ici, il ne faut pas être malade gravement. Sinon, c'est minimum, c'est 80 km d'ambulance, quoi. Voilà.
Merci, Pascal. Oui.
Excusez-moi, parce que, on m'a posé des questions à propos. Voilà, j'aimerais dire un peu le. Moi, ce que je discute avec des gens, évidemment, les Gilets jaunes depuis une bonne dizaine de jours, c'est le sujet. Je vois beaucoup de gens qui ne votaient plus. Moi, je continue à voter, hein, désespérément parfois, mais je continue à voter, et qui maintenant, avec un gilet jaune, se sentent enfin visibles. C'est peut-être ça qu'il faut regarder. Ils ne votaient plus, mais restaient informés sur les injustices sociétales, les impôts des GAFA, l'évasion fiscale, tout ça. Et tout ça, c'est remonté d'un seul coup par une explosion qui peut paraître hétérogène, sans programme, sans but, mais c'est cette accumulation qui...
Mais c'est un appel au secours et un cri de colère. Merci mille fois, Pascal, d'avoir appelé depuis la Côte d'Or. Hervé Le Braz, je veux vous y réagir en oui. Écoutant Pascal.
Oui, parce qu'il est un tout à fait exemplaire de l'un des groupes qui est à l'origine des Gilets jaunes. C'est une France qui est loin de tout. Une grande partie de la France, c'est une partie qu'on appelait autrefois, jusqu'à une époque récente, la diagonale du vide. C'est une partie où à la fois la population est peu dense, elle se dépeuple encore maintenant, et c'est aussi, l'INSEE a fait un très bon travail là-dessus, une partie de la France où on est le plus loin, exactement ce que nous disait Pascal de la Côte d'Or. La Côte d'Or est, le nord de la Côte d'Or est dans cette diagonale du vide, et il nous disait bien qu'il était loin de tous les services, et l'INSEE effectivement a montré que dans cette zone diagonale du vide, dans d'autres petites zones aussi en France, c'est pas toute la France, on est loin de tout, et on est de plus en plus loin de tout, puisque ça se dépeuple, les derniers services s'éloignent encore. Donc là, il n'est pas le seul exemple, il y a beaucoup d'autres clientèles, si l'on peut dire, des Gilets jaunes, mais c'est une part non négligeable, et cette part, ce qui est important, elle demande plus de services publics, mais plus de services publics...
Plus d'impôts.
Eh ben, c'est plus d'impôts, donc plus de taxes. Donc vous voyez, on entre dans le genre de contradiction. Alors quant à l'affaire des questions électorales, des questions de parti, c'est plus compliqué. Là, il y a des situations extrêmement différentes et on en parlera plus tard, mais on n'a pas de données sûres sur la composition, disons, politique des Gilets jaunes.
Sur la question territoriale,
c'est un vrai problème que la faible densité de la France. La France n'est pas assez peuplée. Si la France avait 100 millions d'habitants, on aurait effectivement à ce moment-là des tas de régions qui ne seraient pas, il a cité le nord de la Côte d'Or, et c'est effectivement un des endroits avec la Nièvre où on est avec des densités de population extrêmement faibles, et maintenir des services publics, faire venir des médecins alors qu'il ne va pas y avoir véritablement de clientèle, maintenir des hôpitaux où l'acte chirurgical ne va pas être pratiqué très régulièrement, c'est autant de risques et un coût absolument énorme que l'on ferait porter avec des risques réels pour l'ensemble de la population. Donc honnêtement, ce n'est pas raisonnable. Plus de services publics suppose au moins d'avoir un minimum de densité de population pour maintenir les collèges, les lycées, les écoles, les hôpitaux, pour que des gens viennent s'y installer.
Mais Béatrice Gibelin, qu'est-ce qu'on paye là? Est-ce qu'on paye notre situation géographique, le pays tel qu'il est, tel qu'il existe? Parce que après tout, au niveau démographique, il paraît qu'on est les champions des bébés. Oui, alors comment ça se fait qu'on soit plus densément peuplé?
Ça dépend la longueur du temps que vous prenez en compte. Parce que si on prend des temps un peu longs, la France est quand même le pays qui a contrôler ses naissances et réduit sa démographie le plus tôt de tous les pays qu'on connaît en Europe, tout au moins. Bon, et on s'est trouvé à partir du début du 19e, et on l'a même arrêté à la fin du 18e, à faire très tôt appel à une main-d'œuvre immigrée. La reprise, je disais toujours ça à mes étudiants, 20 millions...
À Paris 8, hein, à Paris vous 8, enseignez. Oui.
20 millions de Français à la fin du siècle de Louis XIV. 40 millions de Français au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 66 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que sur un laps de temps très court, on a réussi à gagner 26 millions. Alors qu'il nous avait fallu plus de 2 siècles pour pouvoir gagner 20 millions de Français. C'est une situation très particulière.
Hervé Lebras. Oui.
Non, mais je voulais dire aussi que... on peut discuter démographie, mais ce qui s'est produit, c'est que au fond, l'État, pour faire face à cette désertification de certaines parties de la France, a misé sur la voiture. C'est-à-dire, on a dit aux personnes, grosso modo, les services publics sont loin, les services même privés, d'ailleurs une pharmacie, mais on améliore le réseau routier, on vous aide avec le diesel. Ce qui s'est produit dans les 3 derniers mois, c'est une rupture avec cette espèce de contrat implicite de l'État. Rupture d'abord avec les 80 km/h au lieu des 90, qui ont déjà soulevé beaucoup de monde dans les campagnes.
Normalement.
Il fallait les consulter aussi.
Si vous consultez les Français sur les restrictions en matière de vitesse automobile, ils vont pas vous dire oui. Hein.
Oui, d'eux s'ils veulent se faire. Moi je crois que vraiment il y a là-dedans...
Chaque fois qu'il y a eu des mesures restrictives, imaginez les radars si à l'époque on avait consulté les gens.
Oui, mais il faut même tenir compte un minimum, discuter avec eux. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit au fond le jugement moral qu'on porte là-dessus, la réaction a été très négative dans les zones où les moins peuplées les zones en déprise. Second truc, le diesel. Alors, on avait encouragé le diesel. D'un seul coup, le diesel est frappé d'indignité. Et ceux qui doivent changer ont du mal déjà à revendre leur diesel et puis à acheter une nouvelle voiture. Et puis arrive la taxe carbone. Donc là-dedans, je comprends que des personnes qui avaient misé sur la voiture pour ne pas être assignées à résidence, pour sortir de leur enclavement, réagissent très fortement. Dans une enquête de l'IFOP montre que dans les communes de moins de 500 habitants, 70% des personnes disent avoir un besoin essentiel de la voiture. Donc c'est là-dedans une sorte de provocation qui a été faite.
Alors on va aller, pardonnez-moi, au standard de France Inter. On va partir en Bretagne, une région que vous connaissez bien, Hervé Lebras. C'est Pierre qui nous appelle, il est retraité. Il habite en Bretagne. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Dites-nous tout.
Alors donc j'écoutais la conversation de Monsieur Lebras qui était extrêmement importante. Donc ça correspond également à ma situation. Donc nous sommes carrément en milieu rural et même en pleine campagne. C'est-à-dire que le village lui-même est à 3 km de notre lieu d'habitation. Donc si je veux me rendre à Saint-Malo, c'est 30 km. Si je veux aller sur Rennes, c'est 60 km. De plus, au niveau des services internet, téléphonie, etc., nous sommes très mal desservis. Nous sommes en zone blanche pour ce qui concerne le téléphone portable. Et je suis obligé d'avoir une connexion satellite si je veux avoir un peu de débit au niveau de l'internet. Donc
ça fait beaucoup, hein.
Un peu précis. Je vous donne un exemple précis. Si je fais une commande sur internet, donc après avoir tapé le numéro de ma carte bleue, ma banque m'a un SMS avec un numéro à taper dans une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Donc je suis obligé de courir à peu près. Je dis bien courir parce que vous savez que le délai est très court de la validité de cette fenêtre. Donc je suis obligé de courir à 30-40 mètres de la maison.
Pour vite mettre le code.
Trouver vite un coin où il y a des barrettes de réseau et revenir en vitesse également pour taper les numéros. Alors donc, vous voyez que c'est extrêmement commode, quoi.
C'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément hein, quand on n'a pas ce genre de soucis. Pierre, vous faites bien de nous raconter ce quotidien. Donc cette fracture territoriale, vous la sentez, vous ?
Ah ben, très clairement. Donc nous avons une voiture pour chacun des membres du couple. Bon, il est bien évident que nous avons des activités, et que pour ces activités, la seule possibilité, c'est de prendre la voiture, puisque donc la ville d'Olle-de-Bretagne est à 9 km de chez nous. Donc ma femme a ses activités de son côté, moi les miennes. Donc il faut quand même qu'on ait deux voitures.
Vous comprenez les gilets jaunes, Pierre ? Vous êtes gilet jaune vous-même ou pas ?
Ben, totalement, oui, puisque nous faisons partie également des gilets jaunes. Donc c'est ce que j'avais signalé la dernière fois que je vous ai eu au téléphone. Et donc nos revendications principales donc concernent, comme tous les gilets jaunes, le prix du carburant et le problème du contrôle technique. Et puis bon, donc également, bon bien là, c'est, on va pas en parler maintenant, donc tout ce qui est salaire et retraite, quoi.
Mais c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup d'émissions différentes, hein, c'est vrai. Mais on va s'arrêter à la question territoriale. Merci mille fois, Pierre, de nous avoir appelé. Béatrice Giblin, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui vient de dire Pierre ?
Parce que la question qui se pose, qu'est-ce qui a contraint Pierre à devoir s'installer à 3 km d'un village, à 9 km de Dole ? Parce que parfois il y est totalement contraint. Il y a sans doute des raisons impératives qui fait qu'il n'a pas eu le choix. Mais il y a aussi qu'on peut avoir parfois le choix. Et je crois qu'on est là face à une question importante d'aménagement du territoire, dans la mesure où on ne s'en occupe plus guère et où le désir de maison, le désir d'espace légitime, hein, qui peut parfaitement se comprendre, d'avoir son chez-soi sans être dans une ville avec un logement mitoyen. Autre chose qui est important, c'est qu'acheter parfois une maison neuve va coûter moins cher que si j'achète quelque chose dans l'ancien pour des droits de mutation, des choses comme ça. Et on n'a pas réfléchi à cette expansion avec des densités très faibles, d'un habitat dispersé, où on a parfois installé les services de la ville à l'extérieur de la ville, les centres commerciaux, les hôpitaux, les collèges même parfois, qui sont à l'extérieur. Et on a tous vu ça. C'est des centres-villes de petites villes qui sont
en train de mourir.
Voilà. Véritablement, tout est à vendre et des logements qui ne valent vraiment, pour ainsi dire, rien. Et où peut-être on aurait la pharmacie, le médecin, le collège et peut-être un accès à Internet un peu moins sportif que ce que Pierre est obligé de supporter.
Hervé Le Bras, vous qui êtes un fanatique des cartes, la carte de France, vous avez étudié, je sais, très près la carte des Gilets jaunes. Quelles sont les zones concernées ? Alors, il y a cette diagonale du ville dont vous nous avez parlé, mais est-ce que ce sont des petites villes, des zones rurales, des zones périurbaines ? C'est quoi précisément le mouvement, là ?
Non, il faut être modeste, hein, question chiffres, parce que, pour tout vous dire, les seuls chiffres que j'ai eus, c'est pour le 17 novembre, c'était quand même là où il y a eu plus de personnes mobilisées, j'avais les fourchettes données pour les départements, par le ministère de l'Intérieur et les préfectures. Mais c'est des fourchettes vraiment larges. Simplement, elles étaient tellement différentes que ça permettait, en divisant par la population, de voir là où la tendance à être gilet jaune était la plus importante, là où la proportion de gilets jaunes par rapport à la population était la plus grande. C'est ne veut pas dire que c'était là qu'il y avait le plus de gilets jaunes, mais la tendance, c'est-à-dire, on cherche quand même à comprendre quel est justement le sentiment populaire. Et à ma surprise, d'une certaine manière, est apparue cette carte de très largement de la diagonale du vide dont on a parlé auparavant. Donc, d'un seul coup, c'était assez satisfaisant parce qu'il y avait une explication qui se profilait pour une partie des gilets jaunes et aussi parce que ça écartait l'idée qu'il y avait une manipulation politique derrière. Parce que cette carte de la diagonale du vide, ça part des Ardennes et puis ça descend. Alors, autrefois, ça descendait même jusqu'aux Pyrénées. Maintenant, ça s'arrête au sud du Cantal, à peu près. Et ça correspond à des tempéraments politiques extrêmement différents. Vous partez du nord ou dans les Ardennes.
Ça ne correspond pas à un vote particulier.
Absolument pas. Et à aucun des partis qui font qui sont les plus importants en France, n'a une géographie de.
C'est vrai qu'on pose,
genre,
on pose la question parce qu'on a tendance. On a remarqué quand même, par exemple, que le vote Front National progressait plus on s'éloignait de certaines gares.
Oui, alors il faut être prudent, prudence, là. Il faut être prudent parce que. Il faut.
Avec des pincettes.
Oui, parce que on a fait le travail sur. C'est un excellent travail de Jérôme Fourquet, mais c'est sur quelques gares du 93.
Il le dit lui-même.
Oui, il est tout à fait conscient, mais c'était intéressant comme intéressant comme idée, et je dirais pas du mal de Jérôme Fourquet, puisque nous avons fait 3 livres ensemble. Donc.
On repart au standard de France Inter. Je donne la parole après Béatrice Jumelin, c'est premier juré. Anne nous appelle. Bonsoir Anne. Ah, Anne n'est pas là, c'est François qui est en ligne. Bonsoir François.
Bonsoir, voilà, je suis... Donc, François, je vous appelle d'Alsace, j'habite Erstein, une ville périurbaine, comme on dit, à 20 km de Strasbourg, enfin au sud. Moi, je voulais témoigner un peu d'une autre réalité, parce que par rapport à ce que j'entendais en Bretagne, ici, nous, on a fait le choix, moi, je suis parisien, j'ai fait le choix de m'installer ici à Erstein, et on a trouvé d'autres réalités qui me gênent beaucoup vis-à-vis des Gilets jaunes, parce que, j'ai envie de dire, si je regarde mon niveau de vie, ce que je gagne par mois, je pourrais très bien porter un gilet jaune. J'ai fait d'autres choix peut-être moins, on dirait proactifs, j'en sais rien. Mais par exemple, quand on est venu à Strasbourg s'installer, sur la question du transport, il y a ici, on a trouvé une coopérative qui s'appelle Cities, on a appris à utiliser l'autopartage. C'est une autre façon d'utiliser sa voiture. Ça, c'est une première chose. J'ai découvert, justement, dans Cities, où ils ont une certaine flotte, des véhicules au gaz naturel de ville, c'est-à-dire au GNV, pas au GPL, au GNV. C'est-à-dire concrètement, à Strasbourg, on a des stations d'épuration qui produisent du gaz naturel. Le gaz naturel, en fait, ce gaz naturel va dans ma voiture. Et ce gaz naturel est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que l'essence. Je tiens à préciser qu'on m'a jamais forcé d'acheter une voiture au gaz, c'est en vente libre, enfin, c'est un peu compliqué à acheter parce que justement, il n'y en a plus en France, des voitures au gaz naturel. Donc c'est une voiture à gaz naturel.
On peut donc en tout cas, François, si je vous entends bien, je dis ça parce que la liaison n'est pas terrible. Vous ne vous sentez pas du tout isolé, perdu à Erstein. Mais Erstein, c'est quand même dans une zone, une grosse zone urbaine. Hein. C'est pas non plus un patelin complètement paumé. Permettez-moi de vous le dire.
Mais on a des gilets jaunes qui sont là au rond-point d'Erstein, néanmoins, et qui apparemment le vivent mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a trouvé ici des moyens territoriaux, c'est parce que c'est une richesse.
Des moyens intelligents pour se déplacer.
Voilà, pour travailler aussi, pour travailler, parce qu'il y a aussi des coopératives d'activité et d'emploi, où plutôt qu'un entrepreneur
on vous entend plus, François.
Comment ?
On ne vous entend plus très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention, Béatrice Gibelin.
L'Alsace est une région densément peuplée. Il y a du monde en Alsace. Donc, comme l'a dit monsieur, il y a des gilets jaunes, mais il y a aussi des services possibles, y compris des services de transport en commun. Donc, je comprends qu'ils puissent ne pas se sentir isolés. Mais une question, et j'y reviens parce qu'elle me semble importante. Quand les gens disent « je dois me déplacer pour aller travailler », je dois faire 40 km aller-retour, voire beaucoup plus. Ça veut dire qu'on n'a pas pensé les choses, dans le cadre de l'aménagement du territoire, entre résidence et emploi, c'est-à-dire bassin d'emploi. C'est peut-être là, si vous voulez, qu'on doit se mettre à réfléchir avec des politiques de logement qui soient pensées dans le cadre de bassin d'emploi et non pas à l'échelle de communes, voire parfois sur plusieurs communes, parce que regardez, on consacre quand même des milliards au logement, je crois que c'est 42 milliards, pour des résultats qui rendent tout le monde insatisfait. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une réflexion à faire qui est importante entre les zones de très forte tension de logement, comme la région parisienne par exemple, où les gens ne gagnent pas beaucoup plus d'argent, mais où ils doivent payer très cher leur logement. Alors c'est vrai qu'ils ont le métro et le RER. Puis d'autres zones où on se retrouve avec des logements vacants nombreux, sociaux, enfin publics ou privés, et où les gens ne veulent pas habiter. Donc il y a quand même une réflexion à faire importante, qui est évidemment sur du plus long terme que de trouver une solution très rapidement d'ici 10 jours.
Hervé Lebras.
Oui, il faut aussi dire qu'il y a une politique Je vais vous donner un chiffre juste après, mais il y a une politique d'État qui consistait à améliorer l'accès au cœur des grandes agglomérations ou en première couronne. Et on en a la preuve d'une certaine manière avec des enquêtes de l'INRETS, l'Institut National de Recherche sur les Transports, qui montrent qu'en 30 ans, la distance moyenne domicile-travail a doublé. Elle est aller-retour à peu près maintenant pas loin de 30 km. Mais dans le même temps, le temps de parcours domicile-travail n'a pas bougé. Donc, quelque part, on peut dire, les améliorations de la circulation, on trouve que c'est formidable, mais c'est elles aussi qui ont permis cet éparpillement de la population. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué, parce que c'est des politiques qui ont été demandées, présentées, et puis qui ont conduit à cela, et qui ont conduit alors avec un autre fait plus moderne, qui est la montée des prix des logements dans les zones tendues dans les grandes agglomérations.
Mais c'est très limité.
C'est très limité, mais quand vous êtes dans les grandes agglomérations, que ça soit Bordeaux, que ça soit Nantes...
Mais ce n'est vrai que pour les grandes agglomérations.
Oui, mais ça fait beaucoup de monde. Vous avez déjà 11 millions de personnes dans l'agglomération parisienne.
Mais par exemple, Bordeaux, c'est la non-anticipation, parce qu'on a dit le TGV fait monter les prix à Bordeaux... Ça a été un des arguments, c'est-à-dire que toute infrastructure qui est prévue fait monter le foncier tout autour.
Pas partout, si vous voulez, mais mettons au Mans, ça n'a pas fait monter le TGV, ça a au contraire créé des navetteurs qui vont vers Paris tous les jours. Donc,
on va repartir au standard de France Inter, on a retrouvé Anne, elle nous appelle de Saint-Malo. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir. Alors, vous m'avez retrouvée parce que, justement, j'habite en province et que les liaisons ne sont pas toujours très bonnes et qu'il y a des coupures. Donc, moi, j'ai pas pu suivre toute la conversation puisque j'étais dans ma voiture, mais ce que je voulais exprimer, c'était que cette fracture territoriale, bon, là, qui explose de multiples façons aujourd'hui, j'ai toujours habité la province, je suis originaire de province, je suis plutôt d'un milieu favorisé qui me donne la possibilité, en théorie, de profiter des choses. Mais, je ressens quelque part et je partage certaines revendications des Gilets jaunes. Je vais vous dire juste un exemple sur cette fracture. J'écoute France Inter du matin au soir. J'aime cette radio, j'y apprends plein de choses, sauf que je sais que habitant la province, hein, ces choses-là, elles vont, voilà, je vais les écouter, je vais en profiter, je ne pourrai pas les partager.
Il n'y aurait pas forcément accès, c'est ça?
Je vais vous donner juste un petit exemple. Donc c'est vrai, mais à tous les niveaux artistiques, enfin, dans toutes les émissions, toutes les références sont toujours parisiennes. Et c'est vrai que jamais on pense aux gens qui eux ne peuvent pas forcément venir à Paris pour venir voir telle ou telle chose et qui sont présentés en fait surtout, et c'est ça où là parfois je me dis ça peut être perçu comme méprisant parce que elles sont présentées donc même chez vous hein, mais bon je me dis tout à fait sans vouloir nuire, mais elles sont présentées comme quelque chose de tellement banal alors qu'en fait pour nous c'est à des lieux. Là l'autre jour vous avez présenté une exposition et le journaliste qui présente le journal de 13h donc parlait avec une interlocutrice et il parlait de Sainte-Anne. Bon, et je me disais, mais Sainte-Anne, pour des gens qui ne sont jamais venus à Paris, ils vont se dire, mais Sainte-Anne, qu'est-ce que c'est Sainte-Anne? Et lui-même a dû se dire, bah mince, hop, puisque, a posteriori, dans son journal, il a éprouvé le besoin de dire, oui, Sainte-Anne, l'hôpital à Paris. Et en fait, si vous voulez, voilà, on se dit, on est provinciaux, et il y a les Parisiens. Et c'est vrai que si vous voulez, je pense que cette fracture, elle est vraiment là.
Et ben
on vit pas la même chose.
C'est vrai, vous avez raison, Anne. Vous avez entièrement raison. Et moi, je peux te dire qu'avant d'être parisienne, quand j'entendais parler du périphérique, ça m'énervait prodigieusement et que j'essaye de faire attention. Mais c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, Hervé Lebras. C'est très important ce qu'elle vient de nous dire.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'il y a une très grande richesse d'événements culturels en Bretagne toute l'année, d'abord.
C'est un Breton qui vous répond, Anne.
Mais aussi, je ne voudrais pas, bien sûr, dire du mal de France Inter, mais...
Allez-y, on est entre nous ce soir.
Non, mais c'est dire que France Inter est une radio généraliste et qu'il existe de très bonnes radios locales en Bretagne aussi. C'était, si on veut, même dans le
même
cadre de l'État,
Bretagne,
France
d'ailleurs.
Bleue, oui, ailleurs qu'en Bretagne, dans toutes les régions. Donc il y a aussi, si on veut se renseigner sur la vie culturelle locale, et je trouve même que... si on est dans un... Bon, c'est la Bretagne, je la connais un peu mieux qu'ailleurs. On est peut-être mieux au courant de tout ce qui se passe localement qu'à Paris. À Paris, bien sûr, vous avez une offre formidable, mais
encore faut-il y aller.
Pour sortir de cette histoire de France Inter et puis de cette centralisation, parce qu'on pourra en parler longtemps, mais quand même, est-ce que ce modèle hyper centralisé, il n'est pas aussi à l'origine de la crise qu'on est en train de vivre actuellement?
Oui, parce que...
On est quand même dans un pays hyper centralisé.
On va pas effacer l'histoire de la centralisation de la France. On va essayer de la corriger, on essaye déjà depuis un moment. Mais les Français sont aussi très attachés à l'importance de l'État et à l'intervention de l'État. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que les efforts de la décentralisation qui ont démarré dans les années 80, que Raffarin, quand il était Premier ministre, a essayé de relancer en 2003, mais qu'on n'est pas allé très tellement beaucoup plus loin, parce que je me demande, mais je peux me tromper, est-ce que les Français ont tellement envie que ça d'être vraiment dans des instances régionales avec une réelle autonomie? Peut-on imaginer une éducation qui soit pas nationale? Peut-on imaginer une police qui ne soit pas nationale? Peut-on imaginer qu'on, au nom de l'égalité de traitement du territoire, qui est de fait inégalitaire, comme le montre un certain nombre d'interventions, bien évidemment, mais est-ce qu'on est prêt à ça? Regardez comme on se retourne toujours très vite, vous allez me dire on le fait parce que c'est l'État qui dirige tout, mais on en appelle toujours à l'État. C'est-à-dire, passer à une autonomie régionale, qui serait peut-être sans doute une très bonne chose, aurait d'autres inconvénients. Il y en a en Allemagne, si on veut faire cette comparaison, bien évidemment, on se plaint déjà que les collectivités territoriales ont trop de gens et trop de fonctionnaires. Alors, si on mettait des parlements dans les niveaux de région, ça serait très compliqué. Mais je crois que l'histoire de la France est...
centralisée.
C'est l'État qui a fait la nation en France, c'est pas ça qui s'est passé ailleurs.
Oui, mais l'État a fait la nation en France, il faut bien voir que c'était Fernand Braudel qui disait « c'est le pays le plus divers d'Europe ». Il avait raison, il disait, parce que c'est le seul endroit d'Europe où les traditions du Nord rencontrent les traditions du Sud. Donc il y a une très grande diversité, il fallait un État fort pour faire le pays. Mais le pays est fait, et il est beaucoup mieux fait maintenant que les pays voisins. On n'a pas d'Écosse qui cherche à partir, de Flandre, qui cherche à partir de Catalogne, de Padanie ou d'Italie du Nord.
Exactement.
Donc, on peut relâcher la pression, le travail est fait. Et je crois qu'il serait nécessaire, justement, de revenir sur un certain nombre de prérogatives de l'État, de les redistribuer régionalement. Économiquement, par exemple, on voit que les endroits où, au fond, des zones assez éloignées se sont très bien développées, c'est avec l'aide des conseils régionaux, beaucoup plus qu'avec l'aide du gouvernement parisien, si vous prenez la mécanique vallée dans l'Aveyron, si vous prenez tout ce qui est dans une partie de la Vendée et autour de Cholet en allant dans le Maine-et-Loire, si vous prenez dans la Haute-Marne pour tout ce qui concerne le matériel dentaire. Et là, à chaque fois, c'est les régions. Or, les régions françaises actuellement ont 10 fois moins d'argent par tête d'habitant que les Länder allemands.
Elles, elles n'ont pas les mêmes charges.
C'est
important.
Bien sûr, on augmenterait leurs charges. Elles n'ont pas ce qu'ont les Länder et ce qu'ont les provinces italiennes ou les régions espagnoles. Elles ont un pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des règlements qui soient différents et qui soient adaptés au milieu local et qui ne soient pas généraux et nationaux, c'est fini.
J'ai rien contre, mais au pays de l'égalité, avant de faire admettre que sur le plan de l'éducation, je reprends, on pourra traiter les choses différemment, moi j'y suis très favorable. Je ne suis pas certaine que ça se passe sans difficulté. Ça supposerait au moins qu'on en fasse un vrai débat, puisqu'on réclame maintenant une démocratie plus vivante, que ça nécessite un vrai débat, assez raisonné et raisonnable, avant qu'on puisse d'en haut décider que...
Oui, mais on doit reconnaître aussi que cette fameuse égalité a largement fait faillite quand on regarde ce qui se passe. Oui, donc, c'est-à-dire que la méthode, à partir du haut, d'ailleurs, dans ce qui se passe actuellement, c'est aussi une critique contre justement ce fameux pouvoir jupitérien.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que le président n'a pas une responsabilité
absolument.
Vis-à-vis des pouvoirs locaux. Il n'est pas allé au congrès des maires l'autre jour.
On l'a beaucoup plus dit, mais il a même fait quelque chose, je dirais, de plus qu'accroître la centralité. Il a écrasé, on peut le dire, les corps intermédiaires. Les maires ont été négligés, les syndicats. Regardez, au tout début de
la CFDT,
Laurent Berger avait fait des offres de services. Au bout de 6 mois, on ne l'écoutait absolument pas, on n'en tenait absolument pas compte. Donc il a fait une tribune, qui était une tribune où il a expliqué ce qu'il en pensait dans Le Monde, qui était tout à fait justifié. Même chose, le Parlement. Oui.
J'ai encore quelques petites questions à vous poser. Je voudrais qu'on accélère un petit peu, parce que l'heure tourne et c'est presque fini. Peut-être un constat, l'absence totale pour l'instant dans ce mouvement des Gilets jaunes, de la question identitaire. Oui. Est-ce que c'est pas quelque quand même de notable?
Alors, c'est assez dangereux parce qu'elle est en train d'être travaillée.
Elle est quand même en train d'être travaillée
à travers ce qui est, ça m'a énormément surpris, mais elle s'est réintroduite à travers la question de la conférence de Marrakech, qui s'appelle le Global Migration Compact.
Ce grand sommet qui aura lieu lundi.
Voilà. Et donc, l'immigration qui avait été tenue comme sujet non pris en compte par les Gilets jaunes, est en train, à travers les réseaux sociaux, pas encore à travers beaucoup de déclarations individuelles, mais en train de revenir, et en train de revenir parce que l'extrême droite pousse ces sujets, et l'extrême droite a une assez grande maîtrise des réseaux sociaux depuis longtemps. Bien c'est une des raisons de sa montée en puissance.
Et puis, elle était aussi importante, il faut voir qu'on a parmi les Gilets jaunes beaucoup de gens qui étaient abstentionnistes, qui ne votaient pas, d'autres qui votaient, qui pouvaient voter de l'extrême gauche à l'extrême droite, et qui, là, prennent la parole. C'est très important. C'est un acte politique qu'ils sont en train de faire, pour eux, même s'ils ne sont pas bien organisés.
Béatrice Gibelin, vous qui êtes spécialiste de géopolitique, est-ce que sinon vous voyez ce mouvement auquel on assiste ici en France s'inscrire dans quelque chose de plus vaste? Alors évidemment, j'ai en tête le Brexit en Grande-Bretagne, les Américains qui ont mis Trump au pouvoir, les Italiens qui ont choisi la voie populiste. Oui. Est-ce que dans le mouvement des Gilets jaunes, vous voyez des similitudes avec ce qui s'est passé ailleurs?
Oui. Il y a des similitudes avec ce qui s'est passé ailleurs. Dans le vote du Brexit, pour un certain nombre d'Anglais du nord de l'Angleterre, c'est le même discours de l'abandon. C'est un discours aussi anti-immigrés, même s'ils se rendent compte après qu'ils en avaient besoin des immigrés. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est la même chose aux États-Unis, dans des classes blanches, petites ou moyennes, qui se sentent déclassées, déconsidérées. Et quand Trump leur tient « Amérique great again », ça a un écho. Alors, non pas qu'on soit sur quelque chose de très nationaliste dans l'expression aujourd'hui des Gilets jaunes, mais je pense que d'ici quelques temps, on peut voir ce genre de préoccupation réapparaître. Je les sens pas très européens, mes Gilets jaunes.
Allez, on le laisse terminer, peut-être
Il y a quand même de fortes différences. Par exemple, au Brexit, c'est les personnes les plus âgées qui ont voté pour le Brexit, d'autant plus qu'elles étaient âgées. Si vous prenez le vote, par exemple, pour le Rassemblement National, c'est les personnes de 25 à 55 ans qui votent le plus pour le Front National. Donc, il y a un certain nombre de différences. Au fond, le seul point commun, c'est celui dont on a parlé il y a un instant, c'est l'écrasement des corps intermédiaires.
Eh bien ça, on en reparlera, figurez-vous, dans la deuxième partie de ce 18-20. Ce ne sera pas avec vous, mais on va continuer à en parler. Un grand merci Béatrice Gibelin, un grand merci Hervé Le Braz. À 19h20, donc un nouveau téléphone sonne sur cette crise des Gilets jaunes, avec cette fois la question démocratique, pourquoi la colère des Gilets jaunes n'est pas passée par les circuits habituels. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Il est 19h21 sur France Inter.
France Inter, le 18-20.
Et dire que la France s'était choisie il y a un an et demi seulement un président de moins de 40 ans, un président qui avait réussi à accéder au pouvoir grâce à la mobilisation d'une garde rapprochée composée de geeks aussi jeunes que lui, le voilà aujourd'hui rattrapé par un mouvement de colère sans précédent parti des réseaux sociaux, une colère populaire 2.0 qui aurait sans doute pu être contenue si ce président se revendiquant d'un exercice jupitérien du pouvoir n'avait pas tant tardé à prendre la mesure du mécontentement. Depuis, le mouvement s'est durci, les revendications aussi, des revendications presque aussi nombreuses que le nombre de ronds-points occupés, et c'est là une des difficultés du moment. Les pouvoirs publics désemparés ne savent pas avec qui discuter, les gilets jaunes n'ont pas de représentants attitrés, ceux qui ont tenté de jouer les médiateurs ont été presque systématiquement désavoués, voire menacés. Dans ces conditions, comment renouer les fils du dialogue? Les syndicats ont bien tenté de jouer les pompiers, mais les gilets jaunes rejettent tout ce qui peut ressembler de près ou de loin aux institutions qui représentent ce qu'ils appellent le système. Alors que faire? Jeter la démocratie représentative aux orties ou la refonder? Et si oui, comment? Pour en débattre avec nous ce soir, François-Mickey Marty, président de l'Institut Via Voice. Bonsoir.
Bonsoir.
Auteur il y a plusieurs années déjà chez Michalon d'un livre intitulé « Les oubliés de la démocratie ». Bruno Breton, bonsoir.
Bonsoir.
PDG de Bloom qui travaille sur la surveillance des réseaux sociaux, c'est bien ça. Et Nora Conan, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes cofondatrice du laboratoire Démocratie Ouverte. Laboratoire qui réfléchit justement aux nouvelles formes que pourrait prendre la démocratie. Vous nous expliquerez un petit peu ce que fait ce laboratoire. On attend bien sûr vos appels au 01 45 24 7000.
Claire Servagent, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel, celui de Fabien. Il nous appelle de Rouen. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Oui, merci. Tout d'abord, merci justement à vos techniciens et standardistes pour leur accueil. Très agréable.
Bon, mais on voilà. Va leur dire s'ils n'ont pas entendu, mais c'est vrai qu'ils méritent d'être remerciés.
Voilà. Si je me souviens bien de mes cours d'histoire, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et moi, quand je vois des manifestations, hein, quel que soit le but des manifestations ou leur façon de faire, je trouve que c'est la démocratie, c'est de la démocratie en fait, c'est le peuple qui veut essayer de reprendre le pouvoir, et pas juste le peuple qui donne son bulletin une fois tous les 5 ans dans l'urne, et puis qui laisse ensuite faire les dirigeants à leur sauce. Donc voilà, c'est de la démocratie, ça, c'est de la démocratie qui est en train de se passer selon moi.
Merci beaucoup Fabien pour cette première question qu'on a eu un petit peu de mal à entendre dans le studio. On va revenir aux fondamentaux. François-Mickey Marty, la démocratie, comment on définit tout ça?
Bah écoutez, c'est la grande question. Alors ce que dit monsieur là est très très important parce que c'est un discours, un constat que l'on entend depuis longtemps. Au fond, qui consiste à dire que notre démocratie est une démocratie inversée où paradoxalement le peuple est privé de son pouvoir. Si en quête d'une définition on considère que la démocratie est un système qui permet d'accorder le pouvoir au peuple, la question bien sûr du peuple et puis la question du pouvoir. Et aujourd'hui, on voit au fond les deux, à travers ces mouvements des Gilets jaunes, les deux registres s'exprimer, revendiquer et tout simplement vouloir être reconnu de manière forte, à la fois la revendication du peuple, nous sommes le peuple, nous sommes là, nous ne sommes pas entendus, et deuxièmement, la revendication du pouvoir, le peuple en démocratie doit avoir le pouvoir, et dès lors que nous ne sommes pas entendus, nous considérons que nous n'avons pas le pouvoir. Donc l'interrogation fondamentale qui est posée aujourd'hui, c'est celle-ci précisément, pas uniquement une question de modalité démocratique, mais une question de recherche de la définition de la démocratie. On voit bien que ce qui est mis en cause, ce sont nos institutions démocratiques avec un principe représentatif. Et puis, d'un mot, la chose qui quand même est mise en cause depuis plusieurs années, alors en effet, vous rappeliez des travaux qui ont pu être faits ces dernières années, là, la critique principale porte sur l'insuffisance de ce principe représentatif. Voilà. Si vous considérez que vous êtes Claire Servagent, je suis François-Mickey Marty, j'aurais tendance à considérer que Claire Servagent, quelles que soient ses qualités, n'a pas la légitimité pour parler en mon nom.
Non, donc, non mais ça je conteste pas. Oui, non,
et réciproquement, bien entendu. Donc, on voit l'enjeu que ça soulève. Ceci étant posé, eh bien, il faut, je crois que ça appelle profondément, alors c'est l'objet probablement de notre échange ce soir, mais ça appelle à des dispositifs qui complètent ce principe représentatif, sans vouloir le supprimer bien entendu, mais qui tout simplement permettent aux gens, un, de dire nous sommes entendus, et deux, nous avons une part d'autorité ou de pouvoir dans le cadre de cette démocratie.
Et les réseaux sociaux, Bruno Breton, ont joué un rôle très important dans ce mouvement pour se faire entendre.
Oui, on est face à de nouveaux rapports de force, à des phénomènes d'influence extrêmement puissants. C'est clair que les institutions actuelles ne sont pas du tout préparées en fait à ce type de phénomène. Alors évidemment, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec le président américain qui a très bien utilisé cette puissance des réseaux sociaux. Alors on est face à ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, à une synchronisation collective. C'est-à-dire vous êtes face à des gens qui ont pensé la même chose au même moment et ils sont très nombreux. C'est une synchronisation collective qui rassemble une puissance énorme puisque c'est des petits engagements par individu. Mais par contre, énormément de personnes qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un. Ça se déploie dans les réseaux sociaux, c'est très fort. Ça ne demande aucun leader. C'est contre-productif d'avoir des leaders. C'est pas structuré pour avoir des leaders. Et quand les gouvernements, les États demandent à parler à des leaders, c'est absolument pas du tout le système de ce type de synchronisation et de déploiement dans les réseaux sociaux. Parce que ça, au contraire, ça va les mettre en avant et ça va leur donner des critiques potentielles qui peuvent nuire à ce développement et au déploiement de ce réseau social. Donc c'est un mouvement démocratique de foule, mais où chaque individu a une voix et un individu n'a pas plus de deux voix qu'un autre.
Et Nora Conan, vous qui observez tout ça de très près, vous dites quoi ? Bravo les réseaux sociaux pour ce mouvement des Gilets jaunes, parce que,
c'est que
ils ont joué leur rôle. Hein.
Oui, ce que je dis, c'est effectivement, c'est que on est en plein dans le sujet de la démocratie avec cette crise des Gilets jaunes. C'est un symptôme de notre démocratie qui ne fonctionne pas, mais c'est un symptôme qui couvre depuis de nombreuses années. Ce fossé, ce décalage qui s'est créé entre les citoyens et les politiques. Là, on arrive à ce stade. Aujourd'hui, et pourquoi on en arrive là? Mais parce qu'on n'a pas mis à jour nos systèmes politiques. Notre société a changé de façon vraiment très 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 rapide, notamment avec l'arrivée du numérique, et on n'a pas mis à jour ces systèmes politiques. Nous, ce qu'on propose à Démocratie Ouverte, c'est justement d'avoir recours à des nouvelles technologies, d'avoir recours à des méthodes, à des outils qui permettent de mettre à jour les systèmes politiques et d'améliorer la démocratie.
Comment se fait-il que Emmanuel Macron, qui s'est largement servi de l'outil numérique pour arriver au pouvoir, pour faire fonctionner tous ses relais, n'ait pas vu venir, alors qu'il est entouré d'une génération de geeks, n'ait pas vu venir ce qui se passait sur les réseaux sociaux? François-Mickey Marty.
Oui, je crois que, je ne sais pas, mais je suppose qu'il l'a vu venir, parce qu'en réalité, on voit venir tout ça depuis très longtemps. Vous avez invité d'ailleurs des sociologues, des géographes, etc. Bon, la difficulté, c'est de trouver la solution, la réponse. Donc, il y a eu une première tentative de réponse qui était, de la part d'Emmanuel Macron, de faire un grand mouvement, qui était La République en marche. Bon, on voit que c'est compliqué dès lors que l'ensemble de la Macronie tient notamment par l'homme, l'image d'Emmanuel Macron. Et puis ensuite, il y a des problèmes plus profonds. Alors, il y en a deux qui sont deux aspirations fondamentales, si on essaie de trouver des solutions. La première, c'est de se dire quel type d'articulation on fait entre du grand public et des citoyens, et puis d'autre part, les représentants. Les aspirations majoritaires, alors nous travaillons au sein de Via Voice sur les mutations précisément de la démocratie, les aspirations majoritaires portent là-dessus. Pouvoir être une initiative de proposition, avoir peut-être pouvoir proposer aux parlementaires des idées de réforme, des projets de loi, pourquoi pas être à l'initiative de référendum, tout ça est important. Mais on voit l'ampleur du travail. Et le deuxième registre, qui à mon avis est beaucoup plus colossal encore, consiste à trouver des solutions qui permettent à tous ceux qui le souhaitent d'exister en tant que personne dans la démocratie. Non pas en tant que catégorie ou en tant que membre d'un agrégat global, mais à travers son vécu, sa vérité personnelle, ses souffrances. C'est ça que beaucoup de gens disent. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent, mais au fond, moi j'ai mon expérience, elle est irréductible à l'expérience des autres. Mes souffrances au travail, mes souffrances personnelles, mes aspirations et mes rêves. Barack Obama parlait du rêve de son père. Bon, et tout ça, comment on le donne à voir dans une démocratie? Alors, le digital le permet, c'est-à-dire on peut imaginer des forums, des assemblées de citoyens, mais on comprend à travers ces deux ambitions-là l'ampleur du chantier, qui en effet aurait pu être engagé plus tôt, mais il est d'une certaine manière assez titanesque.
Mais alors, on s'exprime, Bruno Breton, mais... Une fois qu'on a fini de s'exprimer, quand il s'agit de s'organiser, on voit très bien avec les gilets jaunes que ça devient compliqué. C'est les limites du système, non ?
Non, mais d'abord, pourquoi voulez-vous qu'ils s'organisent ?
S'ils ont des revendications.
Vous pouvez très bien avoir des revendications, on les connaît, vous en faites l'analyse, vous faites des propositions, vous avez des outils pour faire des propositions, vous venez de le dire à l'instant, pour pouvoir vous adresser à eux. Mais il faut éviter d'essayer de faire entrer dans un cadre traditionnel, classique, de l'ancien monde, comme on dit parfois, une nouvelle démocratie qui a des logiques totalement différentes, qui est une logique qui n'est pas de vouloir avoir du leader, de vouloir entrer dans des cadres, de vouloir avoir des process anciens. On est face à une logique directe entre les dirigeants et les gens. Cette démocratie directe demande une nouvelle forme de consultation, une nouvelle forme d'analyse, de relation. Et c'est ça qu'il faut inventer. Et je trouve que pour un président aussi pointu, c'est un formidable défi de réinventer la démocratie à partir de ce qui arrive aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des effets de bord qui sont extrêmement dangereux, comme on le voit en ce moment, et qui ne sont pas dus à l'origine du mouvement, des gilets jaunes. Mais c'est probablement une opportunité extraordinaire pour réinventer une relation entre les gens et les dirigeants.
Et Nora Conan, vous aurez des conseils à donner à Emmanuel Macron, là
Ah oui, on pourrait, bien sûr. Donc effectivement, il faut réinventer. Il y a deux choses, en fait, pour qu'on y parvienne. D'abord, il faut changer notre logiciel. En France, on pense qu'on a l'habitude, on pense qu'on ne peut pas se tromper. On pense que quand on dit quelque chose, c'est établi. Mais aujourd'hui, notre société est complexe. On doit admettre qu'on ne connaît pas d'avance les solutions et qu'on a le droit de tester et de se tromper. Ça, c'est la première chose. C'est une question de posture. La deuxième chose, c'est il existe effectivement des outils numériques qui permettent de participer à tous les citoyens de participer. Notamment, la loi sur le numérique a été construite de manière collaborative avec une plateforme comme Parlement et Citoyens. Donc ça, c'est des outils qui permettent de mettre le citoyen en situation de participation.
Vous, par exemple, avec votre laboratoire, est-ce que vous avez donné des conseils, je ne sais pas, à certaines collectivités locales ? Est-ce que certaines sont venues vous voir pour mettre en place de nouveaux systèmes
Donc, par exemple, je crois que Emmanuel Macron a prévu une grande concertation citoyenne
sur les trois mois
2019. Alors effectivement, il pourrait s'inspirer de ce que l'on a expérimenté en région Centre-Val-de-Loire avec un vice-président qui s'appelle Charles Fournier et ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, on a mis en fait sur la table le sujet de la démocratie. On est allé voir les citoyens, on est allé vers eux, ça c'est une des façons d'avoir de la participation citoyenne et on leur a dit inventons ensemble les solutions de la démocratie de demain en région Centre-Val-de-Loire. Et ce qui a marché, c'est qu'il y avait une promesse à la fin. La promesse, c'était qu'il y ait à avoir un vote au sein du conseil régional, et un vote avec des propositions concrètes, c'est-à-dire un vrai engagement politique.
Effectivement, ça peut être une solution. On va repartir au standard du téléphone sonne. Cette fois, c'est Frédéric qui nous appelle de Pau. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à nos invités, à Fabien Fientès.
C'est clair ce soir, ça va, Jean, mais bon, c'est pas grave, allez. On va pas chipoter.
Écoutez, excusez-moi, j'ai pas entendu le début de l'émission. Un des cris, disons, des gilets jaunes était Macron démission. Alors, ça paraissait, bien entendu, totalement extravagant et hors de propos. Et moi, je me demande si, en réfléchissant, si ce ne serait pas, en fin de compte, la solution la plus raisonnable. Tout simplement, nous sommes visiblement au bout d'un cycle avec une République qui, au niveau des institutions, ne marche plus, et avec un homme à la tête de ces institutions qui exacerbe tous les défauts de la Ve République. Alors, en fin de compte, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour tout changer ? Monsieur Macron, visiblement, n'est pas la solution, mais le problème actuellement. Il n'écoute pas, il n'est pas écouté. Changer de Premier ministre ne changera rien, puisque de toute façon, il se passe le Premier ministre et il n'écoute pas le Parlement. Donc moi, je demande pourquoi, en fin de compte, ne pas laisser Monsieur Macron démissionner.
Eh ben, on va poser la question, c'est François-Mickey Marty qui va s'y coller. Vous qui avez l'habitude de sonder l'opinion.
Oui, alors c'est vrai qu'on a un phénomène d'usure des présidents de la République qui est assez extraordinaire. Il est vrai qu'il démarre sur des niveaux de popularité beaucoup plus faibles que ce n'était le cas à l'époque de François Mitterrand. On avait 70% au début du quinquennat. Alors, de fait, les oppositions se cristallisent contre Emmanuel Macron.
C'est même vraiment spectaculaire. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.
Spectaculaire. Pour une raison aussi, indépendamment des défauts et des qualités d'Emmanuel Macron et de sa politique, assez profonde, qui est que une large partie de ces mouvements se construisent contre, il s'agit pour l'instant d'une contre-démocratie. Donc Emmanuel Macron, ayant cristallisé l'ensemble de la mise en œuvre de sa stratégie et de sa politique, ça se dirige contre lui. Ça peut être une réponse, je ne suis pas sûr, ça rejoint nos précédentes conversations, qu'en imaginant que nous ayons aujourd'hui, pourquoi pas, une nouvelle élection présidentielle, et qu'à périmètre constant, on élise un autre ou une autre candidate, personnalité socialiste, LR ou LREM ou autre, pourquoi pas. Eh bien, je suis pas sûr que fondamentalement, au bout d'un an, les gens ne se disent pas, bah, tiens, c'est formidable, on a trouvé la bonne solution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a pour un enjeu, bien entendu, concernant Emmanuel Macron, son image, mais il y a un enjeu qui est beaucoup plus structurel, concernant précisément la manière dont on peut imaginer de vivre ensemble dans une démocratie. Moi, je crois que le point extrêmement sensible de tout ça, c'est la question du pouvoir dont on parlait au début. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des assemblées délibératives, des réunions de citoyens, etc. Mais comment articuler le pouvoir qu'ont aujourd'hui les parlementaires avec, éventuellement, un contrôle des citoyens, avec des procédures de destitution de la part de parlementaires ou du président de la République de la part des citoyens? Ça existe dans d'autres pays, ça peut être imaginé, mais il y a donc une réflexion sur l'équilibre des pouvoirs. Donc je crois que, pour répondre à la question, en effet, il y a une question qui se pose concernant Emmanuel Macron, mais d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais le mal est plus profond que ça. Et je
pense changer de président
ne suffirait pas. Et donc je crois, je rebondis sur ce que disait monsieur, je crois que profondément, c'est peut-être en essayant de voir les choses de manière positive, une occasion, enfin, d'essayer de se dire, bah, notre démocratie représentative, elle n'est pas suffisante, il faut la compléter.
Il faut une démocratie quoi ? Participative, c'est ça ?
Oui, effectivement, le problème, il est profond et on ne le résoudra pas sans une réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle donc, est prévue pour le début de l'année. Et l'idée, c'est quoi ?
Elle ne prévoit pas grand-chose à ce niveau-là.
Ah ben non, pour le moment, elle ne prévoit pas grand-chose, exactement. Et donc, pour sortir un des éléments pour sortir de la crise, et surtout pour ne pas s'installer dans d'autres crises, parce qu'il y en aura d'autres, des crises à venir. On a celle-là, mais on en aura d'autres. On va avoir des enjeux climatiques, énormément de choses à régler. Et donc, pour sortir de cette crise-là, nous, ce qu'on prône, c'est d'écrire cette constitution avec le citoyen. On ne peut pas écrire... D'abord, à l'origine, on ne peut pas écrire la constitution sans le citoyen, et alors encore moins aujourd'hui. Donc, par exemple, un exemple de ce qui pourrait être inscrit dans cette constitution, c'est de permettre aux citoyens de mettre à l'agenda des sujets qui seront traités par le gouvernement et par les parlementaires. Et on inverse, c'est-à-dire c'est pas uniquement l'exécutif et le législateur qui mettent à l'agenda. Le citoyen, avec des process bien sûr, hein, peut le mettre à l'agenda. Un autre point extrêmement important, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on doit tester, on doit accepter de tester. Maintenant, on a des initiatives citoyennes qui foisonnent. Chez nous, à Démocratie Ouverte, on a un incubateur d'innovation démocratique. On a reçu 50 candidatures. De start-up et d'associations qui voulaient se structurer. Et sauf que on a besoin absolument que de financer ces initiatives citoyennes de façon à ce que on puisse continuer à mettre à jour nos institutions. C'est très important de comprendre cette nécessité d'être dans un processus permanent de mise à jour de nos institutions grâce à l'initiative citoyenne.
Bruno Breton, c'est à l'État d'organiser la démocratie collective sur les réseaux sociaux ?
La remarque de Frédéric est très importante parce que il y a une phrase de René Char qui dit « supprimer l'éloignement tue ». Dans les réseaux sociaux, on est dans ce qu'on appelle le petit monde. Claire Mathieu, une de nos meilleures chercheurs, dit ça, c'est le petit monde. Donc tout est proche, tout le monde est proche les uns des autres. Donc on a vite tendance à avoir des biais qui est de dire Macron démission, le président démission, etc., etc. Ça, c'est un biais. Donc il faut, dans le processus de relation qu'il doit y avoir entre les outils technologiques, les réseaux sociaux et les dirigeants, il faut tenir compte qu'on est dans un espace topologique, que tout le monde est proche les uns des autres et que tout ce qui est dit est écouté par tout le monde. Donc il y a quand même une phase d'apprentissage qui va être extrêmement important, qui va demander du temps, qu'il va falloir expliquer. C'est quand même une technologie qui vient des États-Unis, qui est une technologie, notamment je parle de Facebook et de Twitter, qui est communautariste, avec une vision extrêmement, extrêmement libérale du anti-État, etc. Donc évidemment, il faut tenir compte de cette dimension-là. Donc il faut y apporter un peu de vision française, un peu d'institution française, un peu de... c'est ça qui va être le plus difficile. Il faut pouvoir utiliser ces outils, mais dans un cadre, mais pas dans le cadre dont je parlais tout à l'heure, qui est le cadre de vouloir avoir des leaders, etc., mais dans un cadre relationnel qui doit se définir, comme vous le disiez à l'instant. Et je pense que l'opportunité de janvier est très importante finalement. Revoir la Constitution à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas dans 6 mois. Là, je parle de dans un mois. C'est un élément extrêmement important. Et je pense que ce serait extrêmement intéressant d'entendre nos dirigeants là-dessus par rapport à ce qui va se décider, ou ce que vous disiez à l'instant, dans les semaines qui viennent par rapport à ça.
En tout cas, vous avez parlé d'un apprentissage. Et ça nous permet justement d'aller retrouver au standard de France Inter Muriel, qui est professeur de philosophie et qui s'interroge beaucoup. Elle n'est pas là, Muriel, elle n'est pas en ligne, donc on a Marc en revanche. Bah désolé pour Muriel, on a Marc en revanche qui nous appelle du Nord et qui veut nous parler lui aussi de la démocratie. Bonsoir Marc, on vous écoute.
Bonsoir Claire Servajan, bonsoir à tous. Oui, moi je ne suis absolument pas expert des réseaux sociaux, mais en tant que citoyen, en regardant la crise de la démocratie actuelle, je me dis qu'il faut absolument modifier notre constitution et en particulier en finir avec ce président tout puissant qui décide de tout et qui gouverne avec un parlement caporalisé. Et ça n'a pas été relevé par les autres commentateurs, mais j'ai été frappé mercredi. Mercredi, on a vu des images du Premier ministre à l'Assemblée nationale disant il y a un moratoire donc sur les mesures et en particulier sur les taxes sur les carburants. Et le soir à 22h, j'apprenais sur France Info, on annonçait sur France Info, l'Élysée annonce que c'est une suppression.
Oui, il y a eu un gros cafouillage, hein, Marc, ça, on l'a raconté tout ça, on l'a dit. Effectivement, ils étaient pas sur la même longueur d'onde tous entre eux là.
Tout à fait, mais dans la Constitution, l'Élysée, ça n'existe pas. L'Élysée, ça n'existe pas, c'est qui l'Élysée ?
Enfin, le président existe dans la Constitution. Le président existe.
C'est Monsieur Alexis Kohler, dont on pourrait parler, parce que je fais une petite parenthèse sur Alexis Kohler. Pour moi, l'affaire Alexis Kohler est plus importante que l'affaire Benalla.
Merci Marc. On va peut-être pas rentrer dans tous ces détails. Oui, oui. On
est un peu tolérant vis-à-vis de tous ces problèmes de conflit d'intérêts. Bon, mais donc, je pense que la Constitution, elle a été faite sur mesure pour le général de Gaulle, et que depuis, je crois qu'il faut trouver autre chose.
Merci Marc. Je vais vous couper Marc pour donner la parole à François-Mickey Marty. En tout cas, ce qui revient, c'est ça suffit le pouvoir trop vertical. Hein. C'est quand même ça l'idée.
Oui, alors, avec un paradoxe néanmoins, alors en effet, Marc a raison, et c'est une opinion qui est partagée, hein, l'idée de rééquilibrer les pouvoirs, mais quand depuis plusieurs années vous faites des sondages sur l'idée de supprimer ou pas la fonction présidentielle, en réalité les 2/3 des Français souhaitent au contraire conserver cette fonction présidentielle.
C'est notre côté monarchique, quoi.
Parce qu'il y a une idée d'incarnation de la France, parce qu'il y a une idée précisément d'un dialogue entre le peuple et les citoyens. Donc on voit que les choses sont complexes dans l'organisation de tous ces éléments-là. Il y a une deuxième chose qui est très importante, qui est le maillage territorial. Marc disait en commençant, je ne suis pas féru des réseaux sociaux. Et c'est de fait, n'oublions pas que beaucoup de gens, et c'est tout à fait respectable, ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Ce qui fait cruellement défaut depuis des années, c'est un maillage territorial qui a existé jusqu'aux années 70, 80, 90. Dès le début du XXe siècle, les partis politiques avaient un maillage territorial très fort. Ce sont des choses que l'on a oubliées. Et puis on voit, pour compléter notre palmarès ou florilège d'idées, depuis plusieurs années aussi progresser l'idée du tirage au sort. C'est-à-dire beaucoup de citoyens eux-mêmes, sans qu'on leur propose cette idée, disent « mais pourquoi ne pas faire comme dans le système de la justice, tirer au sort des citoyens ?» Ensuite, reste à savoir le rôle que l'on décerne à ces citoyens tirés au sort. Est-ce qu'il serait un complément au sein de l'Assemblée nationale ? Est-ce que c'est une chambre purement consultative, mais on voit bien qu'il y a une ébullition d'idées qui peut-être, pour une fois, eh bien, rafraîchir notre démocratie.
Le tirage au sort, ça a déjà été tenté dans certains pays, Enora Conan ?
Ah oui, en Estonie, par exemple, ils ont tiré au sort pour redéfinir les règles politiques. Ça s'est très bien passé. Alors, c'est des process qui fonctionnent. On l'a fait aussi en région Centre-Val de Loire. Il y avait un jury citoyen qui a retravaillé les propositions qui venaient du terrain et elles ont été intégrées donc à la délibération. Et puis, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, en fait, sur le partage du pouvoir. Pour partager le pouvoir, c'est essentiel. On est effectivement à aujourd'hui, il faut absolument que les élus acceptent de partager le pouvoir. Donc, ce qui n'est pas évident. Quand je dis il faut qu'on change de logiciel, ça en fait partie. Pour partager le pouvoir, il faut amener le citoyen à s'engager. Et pour amener le citoyen à s'engager, eh bien, il faut d'abord un citoyen informé. Donc on a des innovateurs démocratiques dans démocratie ouverte qui permettent aux citoyens de se faire sa propre opinion. C'est le deuxième point. Il faut ensuite qu'ils se fassent sa propre opinion, puisque les citoyens qui se font leur propre opinion vont être plus enclins à s'engager. Et ensuite, il faut qu'ils aient des outils pour pouvoir mettre à profit leur engagement. Donc ça fait partie... On a des solutions, nous, dans notre collectif, qui permettent justement aux citoyens de s'engager et donc ensuite de participer et à ce moment-là d'être dans un jury citoyen, d'être de participer sur les plateformes que les collectivités peuvent mettre en place, etc.
Bruno Breton, vous souhaitiez intervenir?
Oui, non, je voulais dire qu'il fallait que les dirigeants fassent un peu plus confiance à l'intelligence collective. Je ne sais pas s'il faut des jurys citoyens ou autres, mais l'intelligence collective est un élément important. Par exemple, je trouve incroyable que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, à peu près c'est 2004, hein, la dernière consultation, le dernier référendum en France date de 2005. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas consulté les Français pour partager un certain nombre d'idées. Je veux dire, je dis pas qu'il faille un référendum, mais je veux dire, vous êtes face à une population aujourd'hui qui ne cesse de donner son avis et qui ne donne jamais, à qui on ne demande jamais pour des sujets fondamentaux comme la démocratie, etc. Et ça aujourd'hui c'est plus possible. Donc déjà dans le fonctionnement de la relation, c'est-à-dire consulter un peu plus souvent, régulièrement, des Français. Il y a 40 millions de Français qui sont sur les réseaux sociaux. Marc le maîtrise peut-être pas très bien, mais il y a énormément de Français qui sont sur les réseaux sociaux, énormément de Français en région qui sont sur Facebook. Twitter est un peu plus parisien que Facebook. Et être consulté plus régulièrement, ça fait partie de ce qu'il faut faire demain. Et ça, c'est à mon avis aussi ça, partager le pouvoir, c'est consulter plus souvent.
Vous qui surveillez de près les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voyez comme revendication précise en matière justement de participation citoyenne?
Alors, la fronde fiscale et sur les retraites apparaît déjà dès le mois d'août. On l'a vu apparaître, on l'a vu émerger. Ensuite, quand on a classé la première revendication, c'est une revendication anti-élite qui ressort en tête très largement. Il y avait à peu près, sur une vingtaine de jours, il y avait à peu près 10 millions de conversations, 10 millions d'échanges. Quand on fait le tri, la première revendication c'est anti-élite, la deuxième c'est sur le sujet alimentaire et l'essence. Il y a aussi énormément de discussions entre les gilets jaunes, mais c'est la première qui est sortie, c'était celle-ci. C'était pas celle-ci il y a 3 mois, mais c'est devenu celle-ci depuis à peu près 3 semaines, 1 mois.
Et qu'est-ce que vous voyez venir là pour les prochains temps?
Alors, on voit venir des sujets qui touchent à l'immigration, à l'identité, à la souveraineté. On les voit déjà depuis le mois de...
Mais ils arrivent de groupes bien précis, sous influence politique
plus,
ou c'est...
Oui, alors évidemment, il y a de la manipulation, etc., etc. Mais il y a de plus en plus d'échanges sur le sujet. C'est-à-dire que dès qu'il y a des événements, il y a l'événement de Marrakech, en l'occurrence, révèle un certain nombre de choses là-dessus. Mais c'est le sujet qui monte. On sait très bien que dans les 2 ou 3 mois qui viennent, ça va être fondamental d'avoir des réponses là-dessus.
Gérald, justement, nous appelle au Standard de France Inter un petit peu sur ce sujet, je crois. Bonsoir, Gérald.
Oui, tout à fait. Bonsoir. Effectivement, moi, ça fait bien longtemps que je trouve que, en fait, notre système de démocratie n'est plus adapté à notre société actuelle. Elle avait été mise en place il y a bien longtemps, pour une raison évidente, l'incapacité de recueillir justement les opinions, les voix, les propositions du peuple. Aujourd'hui, on a des outils, des technologies qui nous permettent, d'une part, cette récolte d'idées, également de mettre en avant les plus pertinentes, mais également les personnes qui les proposent. Et je pense qu'aujourd'hui, réellement, on pourrait remplacer une grande partie de l'appareil État par un système informatique, avec bien sûr un process cadré, etc., qui permettrait réellement de transformer la société pour remettre chaque citoyen au centre de celle-ci. Bien sûr, ça passe par de la formation, l'accès aux technologies, etc. Je pense pas que ça passe par des réseaux sociaux type Facebook, etc., puisqu'il faut quand même garder une certaine souveraineté sur un système comme celui-là. Mais pour moi, clairement, demain doit être démocratie participative.
François-Mickey Marty.
Oui, alors c'est le premier élément, ça répond au premier point, en effet, de que chacun puisse être visible dans une sphère publique, tout simplement. C'est le premier aspect. Ensuite, lorsqu'on regarde les aspirations telles qu'elles sont exprimées par les réseaux sociaux, les gilets jaunes, 3 émergent. D'abord, diminuer les rémunérations des représentants, certains disant il faut que les représentants aient un salaire médian des Français. Deuxièmement, le référendum d'initiative populaire. Et troisièmement, pouvoir, dès lors que l'on aurait 700 000 personnes, par exemple, qui soient d'accord pour un référendum, on peut le faire. Et puis troisièmement, supprimer les indemnités présidentielles à vie pour les présidents de la République qui ne sont plus en fonction. C'est très intéressant parce que ce sont des choses, d'abord, réalisables, et deuxièmement, que l'on entend en réalité depuis très longtemps. Elles émanent aujourd'hui des gilets jaunes, mais ce sont des aspirations très anciennes. Et le troisième registre qui me paraît très important est celui de l'idée du service public, alors qui est incarné par France Inter notamment, mais un homme ou une femme politique a pour vocation de principe d'être au service des citoyens. Et c'est cette dimension-là qui souvent est décriée avec des citoyens, des gilets jaunes, qui disent, mais au fond, on a l'impression que les détenteurs du pouvoir sont détenteurs du pouvoir pour eux-mêmes, au mépris du public et donc des citoyens qui les ont élus, alors qu'ils devraient être tout simplement au service du public. Vous parlez tout à l'heure des paroles à tenir de la part de dirigeants politiques, c'en est peut-être une.
Et Nora Connant.
Alors, une façon de mettre le citoyen au cœur des sujets, c'est de... Donc, le jury citoyen, bien sûr, avec le référendum, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi de le faire participer à tout le processus de politique publique. À partir du moment où on élabore une politique publique, on a tout un processus et on doit être dans une logique de transparence. Donc à la fois, les citoyens peuvent participer en direct, mais aussi à partir du moment où on a une transparence totale du processus de décision, le citoyen peut voir ce qu'il se passe. Ça fait partie des choses qui fonctionnent très très bien. Ensuite, on a aussi, une autre façon de mettre le citoyen au cœur, c'est de l'amener, comme je le disais tout à l'heure, à s'engager. On a par exemple un acteur en démocratie ouverte qui a comme objectif d'amener les jeunes à se présenter aux élections municipales. Son objectif, c'est de toucher 500 000 jeunes par de la formation, alors par les codes, donc les réseaux sociaux, les codes des geeks, si vous voulez qu'on caricature un petit peu.
Pas obligatoirement des geeks.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais c'est juste pour forcer un petit peu le trait. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est s'adapter au code, donc au code des jeunes, et donc leur objectif, c'est de toucher 500 000 jeunes et que 5 000 d'entre eux se présentent aux listes électorales.
Bruno Breton, dans ce que nous disait Gérald tout à l'heure, il a utilisé le mot de souveraineté. Il a dit, et ça serait quand même important que ce soit l'État qui organise tout ça. Ça vous paraît important, vous aussi?
Pour moi, l'un des meilleurs relais de tout cela, c'est le maire. Il y a 34 000 maires, très très proches des gens. Ils sont tous plus ou moins connectés parce qu'ils ont les outils. Je pense qu'il faut faire intégrer la dimension des structures administratives, mais je pense qu'on n'utilise pas assez le maire dans cette relation de consultation de à la fois proximité métrique et de proximité topologique. Il y a un élément aussi qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faudrait que tout le monde ait accès aux réseaux sociaux. Ouais, ça. Et donc, le gouvernement, je crois, est en train de travailler là-dessus, le ministre du Numérique, de façon à ce qu'il y ait 100% des gens qui puissent accéder à ça. Il faudra pas l'oublier dans ce processus-là.
On repart au standard parce qu'on a retrouvé Muriel cette fois-ci. Bonsoir. Bon, non, on l'a perdu.
Oui,
vous êtes là, Muriel?
Oui, je suis là.
Parfait.
Donc, je suis professeure de philosophie au lycée de Lamballe, en Côte d'Armor. Et je voulais témoigner parce qu'on a eu une expérience de démocratie directe aujourd'hui, en classe de philosophie, puisqu'on est parti d'un texte de Marx. Et ensuite, on a bifurqué vers l'actualité du mouvement des Gilets jaunes. Alors, au début, ça s'est pas très bien passé parce qu'il y avait certains élèves qui se bouchaient les oreilles. Parce qu'ils avaient peur de division dans la classe, étant donné que certains de leurs camarades vont sur les ronds-points pour soutenir leurs parents, qui sont pour le mouvement. Et au final, on a réussi à dialoguer, trouver des arguments pour et contre, et discuter aussi du droit à la violence et toute autre sorte de choses, et d'éveiller leur conscience de citoyen. Et donc, on a parlé de la démocratie directe, mais c'est difficile en tant que professeur.
En tout cas, cet outil vous a permis d'avancer.
C'était positif. Je pense que tout le monde est ressorti apaisé. Mais c'est assez délicat, tout de même.
Merci beaucoup, Muriel, pour cette intervention. Ça veut dire quoi, François-Mickey Marty, qu'être un citoyen, ça s'apprend?
Oui, alors, merci beaucoup.
Aussi.
Oui, il y a une culture démocratique, quoi qu'il en soit, à entretenir, puisque la démocratie ne va pas de soi. On a l'air parfois de considérer que ça va de soi, mais ça ne va pas de soi. Et puis, en effet, alors, madame a vraiment tout à fait raison, me semble-t-il, parce qu'elle se pose la question du débat démocratique. Nous venons de réaliser un sondage, sur la manière dont on se forge une opinion. On dit aux gens, quand vous avez une opinion sur un sujet, d'où ça vient? Alors, les gens que l'on a interrogés, un échantillon représentatif de la population française, disent d'abord, il y a mes convictions, mes valeurs, mes valeurs de manière globale. Ensuite, mes émotions, mes sentiments, ce que je ressens, des choses que j'aime, que j'aime pas. Ensuite, des envies de rejet ou d'adhésion, mais de manière très floue. Et en quatrième lieu seulement, l'idée des arguments et du débat. Et là se pose une question majeure, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir ou repenser ou adapter nos formes démocratiques, mais si nos confrontations démocratiques sont celles de l'anathème, de l'injure, de l'émotion, je te déteste ou je t'aime, il y a peu de chances pour que ça aboutisse à des résultats très concrets. Donc, en effet, je ne sais pas si ça passe par l'école, si ça passe par le maire, si ça passe par l'éducation civique au sens large, mais cette question, au fond, de la raison reposant sur des arguments est quelque chose qui est fondamental, présupposant le respect et l'écoute de l'autre.
Parce que sur Facebook, par exemple, le côté émotionnel, ça y va.
Vous savez, quand on fait une analyse des émotions, il y a 60% des émotions qui sont positives et 40% qui sont négatives. Donc c'est pas du tout ce qu'on croit. Il y a énormément de gens. On parle évidemment de l'écume des vagues, mais quand on fait une analyse profonde des réseaux sociaux, pas simplement les quelques données qui sont superficielles, on constate qu'il y a énormément d'échanges argumentés de plus en plus. Alors, quand il y a des moments un peu de pic comme ça, c'est pas ce qu'on voit. Mais il faut pas confondre cette écume-là avec tout ce qu'il y a derrière, parce que les gens échangent beaucoup, écrivent, au contraire de ce qu'on peut imaginer, ils écrivent beaucoup. Et on constate que à terme, avec l'effet de trail, les contenus les plus argumentés finissent par avoir le plus d'engagement.
Concernant les groupes Facebook des Gilets jaunes, est-ce que vous avez remarqué qu'ils restent autonomes ou est-ce qu'il y a une façon de fédérer un petit peu tout ça ou pas du tout? Comment ça se passe?
Alors, il y a deux types de groupes. Il y a les groupes privés et les groupes publics. Les groupes privés, donc, il faut une autorisation pour pouvoir y aller par l'admin. Et les groupes publics, tout le monde peut y aller. Alors, ils essaient de s'organiser. Je pense que pour moi, plus il y aura de groupes, plus ce sera le début de la fin du mouvement des Gilets jaunes. Parce que qui dit organisation dit leader, qui dit leader dit la fin de ce phénomène. Donc je pense qu'ils sont tiraillés entre vouloir s'organiser, de créer des groupes, et le fait de pouvoir rester comme ça un mouvement assez général. Ce qui est délicat dans les groupes, c'est que c'est des lieux qui peuvent être manipulés. Voilà ce qui est délicat, par rapport à des individus qui échangent, etc. À partir du moment où vous avez créé une agora dans l'agora, vous pouvez avoir de la manipulation.
Manipulé par qui?
Par des ultras. Qui arrivent. En fait, ce qu'on voit, le côté violent qu'on peut voir, c'est pas du tout les Gilets jaunes. C'est des gens qui viennent s'intégrer à l'intérieur du système. Et donc, quand il y a des groupes, ils viennent à l'intérieur et qui viennent, échanger, mais d'une certaine façon, mobiliser, attaquer, se confronter, etc. Et c'est ça qui crée cette dureté. Donc, je pense que il est probable que le groupe n'est pas obligatoirement la structure la plus adaptée pour pouvoir déployer ce type d'échange dans les réseaux sociaux.
Et ceux qui disent Facebook, c'est les Américains, et c'est quand même une façon de faire bien particulière, et il peut y avoir une influence de ce côté-là, foutaise ou pas?
De la part des Américains?
Ouais.
Nous, on a regardé dans les réseaux, alors on a vu pas mal de comptes russes, on a vu pas mal de comptes américains, etc. Mais alors, je vous assure, avec les Français, ils ont des taux d'engagement qui sont très très faibles.
Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher.
Non.
Et Nora Conan sur tous ces outils.
Alors pour revenir sur l'éducation et la citoyenneté, effectivement être citoyen ça s'apprend. Ce qu'on peut observer c'est la question de la démocratie, c'est comment on prend les décisions ensemble. Et une des clés de la façon dont on peut prendre des décisions ensemble autrement, pour éviter d'arriver à des situations extrêmes, c'est la gouvernance partagée. Et c'est aussi des outils de communication non violente, pour apprendre à se parler. Ensuite, par rapport aux Gilets jaunes et à... Moi, ce que je regrette, c'est que ce mouvement, c'est un mouvement qui est là par souffrance de démocratie. Maintenant, c'est un mouvement qui doit trouver des solutions démocratiques de construire ses revendications de façon à être vraiment en lien avec son sujet.
Le mot de la fin, il sera pour vous, François-Mickey Marty.
Il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur désenchanté qui m'a dit « La démocratie, c'est ce qu'on voit à la télé, ma vie, elle est ailleurs. » Donc si dans les années qui viennent, on peut répondre à ce monsieur et remettre la démocratie dans la vie de ce monsieur, ce serait une très bonne chose.
Une toute petite question quand même en plus, parce que vous êtes dans un institut qui est chargé de surveiller justement l'opinion, de sentir ce qui se passe. C'est pareil, ce qui s'est passé sur Facebook, vous ne l'avez pas vu venir?
Au contraire. Je crois que les...
Et vous avez 20 secondes pour me répondre.
Moi, j'avais prévu 20 minutes. Le sentiment de colère. Juste une chose qui illustre tout ça. Pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle, des mesures d'opinion ont été faites par Sciences Po, par le Civipof, en demandant aux gens quel est leur état d'esprit dominant. C'était le mot colère qui a. C'était pas hier, c'était pendant la dernière présidentielle. C'est déjà ça.
Voilà, comme quoi c'était déjà bien vu. Merci beaucoup François-Mickey Marty. Bruno Breton, merci. Mille fois merci d'être venu. Et Nora Conan également. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Jimmy Bourquin, merci à Fabrice Legge qui a réalisé ce téléphone sonne et ces deux téléphones sonnent à la technique ce soir. Renan Mahé, Henri Bérec, Tiphaine Battista. Merci aussi à June Loper qui a lu vos messages sur franceinter.fr et à deux standardistes qui n'ont franchement pas démérité. Vous écoutez France Inter, il est 20h.